L'ordre de 1989 était à sa manière post-politique, dans la mesure où il réduisait la gouvernance à une question technique, où n'étaient plus admises les visions concurrentes de la cité. Cette doctrine avait d'ailleurs un nom, la troisième voie, qui reprenait officiellement le meilleur de la gauche et de la droite. Elle était portée par une nouvelle classe politique à mi-donnée, incarnée par des hommes comme Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, Justin Trudeau et aujourd'hui Keir Starmer et Marc Carney. Emmanuel Macron en est probablement le dernier héritier. On peut ajouter Ursula von der Leyen, dans la mesure où l'Union européenne est l'institution qui a incarné de la manière la plus achevée cette époque. Tel était désormais le sens de l'expérience démocratique au cœur de la modernité. J'ai associé dans mes travaux précédents ces temps nouveaux au régime diversitaire. Ce grand récit enchanté semblait pourtant de temps en temps contrarié par une population réfractaire, s'emparant de la plupart des occasions qu'on lui offrait pour faire savoir son peu d'enthousiasme pour l'ordre nouveau. Des forces politiques disparates ont témoigné de ce refus, sans qu'on ne les prenne trop au sérieux, du moins au début. Les partis contestataires avaient différentes généalogies. Certains existaient depuis longtemps avec un positionnement national-conservateur et se métamorphosèrent dans ce nouveau contexte. D'autres prirent forme à même ce nouveau contexte, surtout à partir des années 1990 et 2000, comme si chaque société avait son système immunitaire idéologique. On commença alors à parler de populisme. La percée électorale des populistes était traitée comme une période d'ajustement inévitable. Les catégories sociales désavantagées par les temps nouveaux, protestant comme elles le pouvaient contre le nouvel ordre du monde, sans espoir sérieux de le renverser. C'était l'heure de la politique tribunicienne. Il fallait bien que populisme se passe. C'était une opposition de barbares intérieurs enfermés dans un monde raciste, hétérosexiste, patriarcal et écocidaire dont ils ne parvenaient à s'extraire. C'était une opposition d'hommes blancs trop blancs. On pouvait avoir de l'aversion pour eux, pourquoi pas de la pitié. Il fallait tout simplement savoir qu'ils avaient perdu. Ils étaient traités au sens propre comme des réactionnaires, comme des retardataires, comme les derniers restes d'un monde vaincu, nostalgique au mieux, fasciste inavoué au pire. Ils furent vite associés à l'extrême droite, catégorie s'élargissant sans cesse pour accueillir tous les réfractaires, et ils se multipliaient. Il ne s'agissait toutefois pas d'une catégorie politique descriptive, mais d'une catégorie fourre-tout, où jeter ensemble, sans vraiment prendre la peine de les distinguer, les ennemis du régime ou ceux que le régime voulait purger. Les spécialistes de l'extrême droite se sont multipliés au rythme où ce concept se floutait. Ils étaient à la fois les démonologues et les exorcistes du régime diversitaire. Mais voilà, dans les marges, les opposants prenaient au sérieux leur propre combat et ne consentaient pas à leurs décrets de péremption. Ils croyaient résister pour demain gagner. Ils ne contrôlaient ni les grands partis, ni les grands médias. Ils dominaient encore moins les codes de la communication et de la publicité, mais ils misaient de leur côté sur des aspirations profondes et refoulées par les nouveaux temps révolutionnaires. Ces populistes, ces identitaires, ces conservateurs, ces réactionnaires ont peu à peu commencé à l'emporter. On aurait pu s'en douter. D'abord en France en 1992, en Autriche en 2000, de nouveau en France en 2002 puis en 2005, en 2016, au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, les insurrections se sont multipliées. Une contre-infrastructure médiatique s'est développée. Elle était faite de sa mise date, de maisons d'édition faiblement réputées, de blogs aussi, car la dissidence comprit immédiatement le rôle d'Internet et des réseaux sociaux, jusqu'à ce que le régime constate que cet espace, s'il n'était maîtrisé, conduirait à sa perte. Et depuis, il fait tout pour le casser. Elle racontait l'envers d'un monde merveilleux. Elle rapportait les faits désagréables au système. Elle donnait la parole aux exclus de l'espace public. Elle construisait un autre récit, qui avait ce vilain défaut, du point de vue du régime, de répondre à la lecture spontanée que faisait le commun des mortels de sa situation. À la grande surprise d'une caste qui se croyait indestructible, les insurgés, aujourd'hui, sont en train de l'emporter. C'est à ce choc, au cœur même de la démocratie occidentale, où, ce qui passe pour tel, qu'est consacré le présent ouvrage. J'entends ici raconter le choc entre la rébellion et l'Empire qui contre-attaque. Il s'agit d'un moment suspendu dans l'histoire, où la légalité et la légitimité ne coïncident plus nécessairement, où les uns se réclament du droit, où les autres se réclament de la volonté populaire, et où les institutions ne font plus consensus. Qui parvient à les conquérir espère moins rallier l'opposition que la mater pour de bon. À l'échelle de l'histoire, il n'y a là vraiment rien de neuf. Lorsqu'une élite tient le pouvoir, ses manettes, et profite des avantages et privilèges qui l'accompagnent, elle s'y tient et ne le sacrifie jamais, sauf lorsque sa frange opportuniste se rallie à un nouveau régime pour assurer la transition d'un système à un autre. On l'a vu dans les pays de l'Est après la chute du communisme.